Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du mercredi 25 février 2026. On se retrouve avec un Bitcoin autour de 65 000 $ avec un rebond de plus 3% sur les dernières 12 heures. Un Ethereum toujours sous les 2000 à 1900, plus 3,60. On a 6,62 pour Solana, quasi 6 pour Monero. Hyperliquid stable autour de 27 $ à plus 2,50. On a du 3,50 pour Ederage Graph LTC et Avalanche. 6,50 pour le World Liberty Financial et qui pourrait être target, je ne sais pas si c'est aujourd'hui que sort l'enquête de ZackXBT autour d'une structure ou société qui aurait eu partie prenante donc sur des activités un peu illégales ou illicites du moins. Uniswap 5%, on a plus 6,40 pour Sky, anciennement Maker, d'ailleurs beau rebond de la DeFi avec Morpho également, c'est à noter. Plus 7 pour ICP, plus 6 pour Wallcoin, on a 9% pour Matic, Polygon et on clôture le top 50 avec Ethena à plus 5 et le top 60 donc par corollaire toujours 800 millions avec Official Trump, Flare Network et Nexo avec des plus 4%, donc c'est un petit rebond technique on va dire qui n'est pas flamboyant mais voilà c'est toujours mieux que rien avec une stabilisation donc du marché crypto et du Bitcoin en tant que tel en premier lieu qui hier était venu chercher autour de 62 000 $. En guise d'introduction de ce mercredi à mi-semaine donc de cette semaine qui nous conduit à la fin du mois de février, vous avez certainement vu passer ce post en anglais de Citrini qui a été repris bon nombre de fois par des comptes francophones sur ce que pourrait devenir le monde de demain avec l'IA et donc un peu une boucle de rétroaction à partir du moment où l'IA va pouvoir faire toujours plus de choses, toujours plus vite, toujours plus fort, sans s'arrêter, sans se fatiguer et en créant cette disparité entre le coût que ça peut représenter et derrière le surplus de production que ça peut engendrer tout en mettant un bon nombre de personnes qui aujourd'hui sont au travail au chômage indirectement ou directement et donc on pourrait avoir d'ici à 2028-2030, c'est en tout cas la thèse que met en avant cette longue étude de Citrini, cette boucle où en premier lieu eh bien on aurait beaucoup de gens qui se retrouvent au chômage, où l'on crée certes plus de valeur du côté de l'IA mais tout en ayant les vraies personnes qui consomment dans la vraie vie qui malheureusement se retrouve avec bien moins de moyens pour consommer et donc un cercle peu vertueux là pour le coup d'un point de vue économique pur et dur où qui dit plus de richesses centralisées quelque part autour de l'IA, moins de richesses du côté des humains si on résume un petit peu ça dans un scénario sombre à la Matrix bien que voilà on espère tous que l'IA n'ira pas jusque là et au plus comme on le voit actuellement des IA vont avoir la possibilité, la capacité de s'auto entretenir mais surtout de s'auto-améliorer, de prendre des décisions, d'aller plus vite et quand on arrivera à la super IA peut-être un jour qui sera comme ils le disent dans les bouquins de chercheurs, un milliard de fois plus intelligente que tous les cerveaux humains réunis, c'est là où on se demande si la chose ne va pas totalement nous échapper et donc on pourrait se réveiller un petit matin à mi-chemin entre ces deux eaux où en effet eh bien, on a un taux de chômage qui explose tous les plafonds d'un point de vue mondial, le S&P 500 qui d'un seul coup se rend compte que la croissance à 10 ans eh bien, va être largement inférieure à tout ce qu'on a connu ces dernières décennies. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui faites très attention du côté des réseaux sociaux pour ceux qui vont vous dire oui mais la bourse a fait pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans parfois la même performance etc. lycée. Là on est en train de vivre une véritable révolution technique et technologique pour le coup mais surtout à un point de vue purement humain. On ne sait pas du tout à un horizon de temps de 5 ans ou 10 ans ce que ça pourrait impliquer, que ça soit pour l'économie, que ça soit pour les humains ou pour la planète, etc. Donc c'est vrai qu'on avance petit à petit sur l'IA et peut-être elle avance beaucoup plus vite que ce que nous on peut le comprendre et que ce qu'on le voudrait en tant que tel. Et c'est peut-être de là que pourrait venir plus que de la fameuse bulle IA dont tout le monde parle autour de Nvidia, cette économie circulaire et tout cet argent qui a été vraiment cloisonné à ce domaine en particulier et peut-être à juste titre aujourd'hui si demain il est créateur à ce point de richesse et de valeur et c'est là où entre en considération pour éviter de voir un monde justement où l'économie collapse et les banques etc. et le quotidien finalement des humains d'avoir peut-être des méga taxes du côté de la robotique, de l'IA et de tout ce qui va créer à ce point de la valeur 24/7 sans jamais se fatiguer et de façon complètement exponentielle avec peut-être en bout de ligne et ça reste une solution parmi tant d'autres pour toutes ces personnes, ces milliards de gens qui se retrouveront potentiellement au chômage, le fameux revenu universel de base pour permettre à tout un chacun à la fois de vivre, à la fois de consommer. Et voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile de se projeter sur, on va dire, ne serait-ce que les 5-10 prochaines années, alors imaginez sur 20 ans, et de se dire avec certitude que oui, on aura les décennies qu'on a déjà vues par le passé, avec beaucoup de hausses, des cracks en cours de route, mais peut-être que la réalité de ce qu'on a traversé justement ces 30-50 dernières années va être complètement rebasculée, va être redéfinie au cours justement des 10, 20, 30, 50 prochaines années. Donc c'est très intéressant comme sujet, ça fait un petit peu peur aussi parce qu'on voit que l'IA, même les pro-IA savent pas trop où on va et à quelle vitesse ça peut justement se développer dans des proportions qu'on peine à imaginer aujourd'hui. Et donc voilà, c'était pour moi le petit sujet important à traiter pour aujourd'hui en milieu de semaine. Au niveau de l'analyse technique, on va essayer de regarder un petit peu tout ce qui se passe, mais ça n'a guère évolué depuis, avec un Bitcoin qui est sur 6 semaines de baisse consécutive, qui travaille le gros du volume profile ici, qu'on a longuement travaillé, notamment au cours de mars 2024 et jusqu'à l'extraction en octobre 2024. Moyenne mobile 200 autour de 58 500 $ et les oscillateurs petit à petit sont en train de se poser. Donc le moindre mal, hein, comme on disait, ça serait de voir un bottom au cours de cette année 2026 qui se fasse quelque part entre 50 et 60 000. Et si jamais vraiment ça venait à se gâter, eh bien on descendra à l'étage inférieur autour de 40 000 $. La dominance des stablecoins est stable justement comme son nom l'indique à 0,12 pour un ATH comme on l'avait vu la dernière fois à 0,17 au cours du cycle précédent. 2 222 milliards pour le crypto total qui avait méché pile poil sur la moyenne mobile 200 à 2 005 milliards et qui est aujourd'hui donc autour de 2 200. Là aussi, ben, on va voir si ça tient et si ça ne tient pas. On a des petits intermédiaires autour de 1900 à 1600, 1700 et par la suite le point bas qui pourrait se trouver autour de 1500 qui correspondrait aux 40 000 $ si jamais ça venait à se gâter et notamment si le cycle de 4 ans continue d'exister autour potentiellement de cet automne 2026 où on aurait le max pain également potentiel du côté du S&P 500 au moment des midterms de Trump, notamment parce que à force de faire un petit peu tout et n'importe quoi, d'être repris récemment par la Cour suprême et de dire que de toute façon ces institutions qui sont séculaires pour les États-Unis et qui sont les derniers garde-fous fondateurs de ce que représentent justement les États-Unis, commencer à s'en prendre à ça, je pense que de tout bord ça risque de ne pas leur plaire. Donc aujourd'hui, voilà, on ne sait pas trop là aussi sur l'administration de Trump à quoi s'attendre, mais c'est quelque chose qui pourrait avoir son importance autour de cet automne. La seconde crypto-monnaie du marché, Ethereum, toujours en phase d'accumulation entre 1700 et autour de 2100-2150 où il y a ce pivot. Donc pour du long terme, le ratio risque-récompense paraît pas dégueulasse. Comme d'habitude, voilà, c'est toujours ni un conseil ou quoi que ce soit, et Ethereum est vachement plus dégradé que Bitcoin aujourd'hui. Donc c'est censé représenter une portion beaucoup plus faible dans un portefeuille crypto que ce que représentera Bitcoin, qui lui-même pourra être assimilé à de l'or entre grands guillemets comme d'habitude. Si jamais ça déraille, eh bien on aura les 1400 en ligne de mire, et si ça turbo déraille, eh bien les 1000 $ pour Ethereum. Mais autant vous dire que à la fois le revoir à 1000 $, ça serait une belle opportunité, mais d'un point de vue signal de marché, ça serait assez catastrophique. Donc j'espère pour lui qu'il arrivera à s'en tenir quelque part entre 1400 et les 1600 à 1800 qu'on a touché récemment. Du côté des métaux précieux, le gold toujours stable sur ses appuis proche des 5 200 $ l'once. On a également une reprise de plus 5% pour le platine, pour le silver à plus 4% l'argent et pour le palladium autour de 1821 $ l'once. On est à 5,91 $ pour le cuivre et l'aluminium, on est autour de 3115. Quand on regarde du côté des indices aux États-Unis, le Russell, donc les small cap américaines, plus 1,20%. On est dans un petit pack actuellement ici, relativement proche de la TH et au-dessus de la moyenne mobile 20. Ça peut être intéressant. Le Nasdaq, 25 000 $ sous la moyenne mobile 20, lui pour l'instant un petit peu dégradé. Et d'ailleurs, on le voit sur les grosses structures et sociétés américaines. petit à petit, on a un peu des appels contre appels. Donc, c'est pas encore suffisant pour faire dégringoler le marché américain, mais on se pose les premières questions, en effet, de où nous en sommes par rapport à ces avancées, et notamment du côté de l'IA. 6900 points pour le S&P 500, ça continue également de pas trop mal se verrouiller au-dessus de la moyenne mobile 20 et très proche de l'ATH. Le CW8, exactement la même limonade, et pareil pour le WPEA, qui est celui qu'on peut acheter à partir de 6 euros du côté des portefeuilles actions français. Et je crois que d'ailleurs, comme son nom l'indique, du côté du PEA, a fortiori. Le CAC 40 qui continue de nous faire des belles journées, 0,26. Donc la France qui se comporte là aussi plutôt pas mal pour l'instant. Et le Eurostoxx 600 pour l'Europe, pareil, qui bloque sur un nouvel ATH proche des 631-632. On va voir ce que donnera l'Europe pour les prochaines années, mais ça a été un peu le sursaut, comme on disait dans la dernière émission, et c'est plutôt cool à observer. Au niveau des minières, on a Canaan qui nous pousse plus 16%, mais après une descente complètement dégueulie pour le coup depuis octobre 2025 à 2,19$, on est venu chercher du 42 centimes. On a tout pulvérisé sur sa route, donc je suis pas sûr d'avoir envie de m'exposer immédiatement à ce genre de dossier. Contrairement à TerraWulf, plus 12%, où là on a une trend qui est inverse, c'est-à-dire véritablement haussière. Systématiquement, on a fait des nouveaux points hauts. Donc les points bas avaient été trouvés en février, mars, avril 2023 autour de 50 centimes, et on est aujourd'hui à 17-18$ pour TerraWulf, avec un ATH qui se trouve à 43-44. Je n'en ai pas en portefeuille, mais en termes de trend, force est de constater que c'est une des minières qui sont liées aux cryptos qui se porte véritablement le mieux. Un petit coup d'œil à Coinbase qui continue de mariner autour de la moyenne mobile 200, donc on est à 162$ pour l'instant. On a la moyenne mobile 200 qui est à 169, peut-être un point bas qui pourrait être fait ici, mais comme je le disais la dernière fois, tout ça est très Bitcoin dépendant. On a AMD qui reprend un petit peu du poil de la bête sur une zone clé ici comprise entre 190 et 206$. On va se mettre la petite zone ici, on va voir ce que ça donnera. Mais pour l'instant, bon, pour ceux qui sont positionnés notamment sur Nvidia, c'est difficile de se dire est-ce que je vais aussi sur AMD. Ceci étant dit, si vous souhaitez investir dans un domaine comme l'IA ou l'infra ou enfin tout ce qui a besoin justement de calcul aujourd'hui, quand on investit par exemple sur du AAV en ce moment qui traverse un peu une période de crise, eh bien on voit que Morpho a surperformé à court terme AAV, eh bien on peut tout à fait faire un portefeuille où on se dit ok, j'ai une thèse d'investissement, j'ai une conviction sur AAV. Pour la poche que je choisis d'allouer sur AAV, je mets 50, 60, 70%. Ça ne m'empêche pas derrière de mettre 10% sur Morpho, 10% sur Maker ou 10% sur Intel, ou alors de faire un 70-30 si on n'a pas envie de se casser la tête entre AAV et Morpho. Aujourd'hui, on a Nvidia, c'est l'incontournable, c'est l'incontestable. Vous mettez 70-80% sur Nvidia et ça ne vous empêche pas derrière de regarder une dizaine, voire une vingtaine de pourcents du côté de AMD. Comme d'habitude, ce n'est toujours pas un conseil ou quoi que ce soit, mais c'est la façon que j'essaie de raisonner pour essayer de mitiger un petit peu le risque tout en bénéficiant du upside potentiel si l'ensemble du domaine se met à péter. Je voulais repasser également sur Take-Two parce que ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas regardé, et depuis la cassure ici de la structure début février, donc c'est pas loin à 215$, ça s'est un petit peu gâté, on est revenu chercher 188-189, moyenne mobile 200, long terme à 165, le POC est autour de 152-153, une personne m'avait demandé qu'est-ce que le POC, c'est très simplement point of contact, donc en gros quand vous avez comme ça sur une échelle de temps donnée un volume profile, c'est l'endroit où soit le cours a passé le plus de temps, mais surtout l'endroit en fonction du temps justement où s'est échangé le plus de volume, le plus de titres. Donc aujourd'hui, souvent quand on est dans des phases correctives ou baissières, ça fait un peu rôle où ça agit comme un aimant, donc c'est quelque chose à garder dans un coin de sa tête. Toujours est-il, Take-Two, on l'avait pris au moment de l'annonce de GTA, on était autour de 126, allez, 130$ le temps de rentrer, il est venu chercher autour de 265$, donc ça faisait partie des trucs qu'on a bien chopé sur la chaîne ces dernières années. Là, pour l'instant, on rentre dans une correction qui était peut-être due avec tous ces reports, et d'ici à ce qu'on nous annonce que finalement, c'est que pour dans un an supplémentaire, GTA 6, je pense que c'est tout à fait de l'ordre du possible, donc ça va être très dépendant des annonces de ces sorties. Ceci étant dit, si on me le redonne quelque part entre 150 et 160 $60, pourquoi pas remettre une petite cartouche pour Take-Two. En tout cas, voilà, c'est des trucs qui sont très sensibles aux annonces. Et derrière, il y avait quand même eu une performance qui était assez remarquable. Également, comme je vous en avais parlé dans les dernières émissions et que les oscillateurs sont très bas et peut-être en train de fléchir, c'est une bonne nouvelle pour Netflix qui est posé littéralement depuis 3 semaines sur son 0,5 de Fibo à $75. On est à 78, donc il faudrait renverser la vapeur au-dessus de 82 et par la suite au-dessus de 88-89. Et Ramé qui continue donc sa remontada depuis la semaine dernière, on a une belle performance. Je ne suis pas rentré dessus, mais c'est une action que j'observe qui est au travers du temps relativement flat. Un coup, ça monte pas mal, ça descend beaucoup. Voilà, je ne sais pas trop si j'ai envie de rentrer sur un dossier comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez en portefeuille et si vous connaissez bien le domaine en particulier. Mais comme je vous disais la dernière fois, voilà, pour ma part, j'étais plutôt rentré sur ce dossier en bas de range pour FDJ. On a eu la résolution donc la semaine dernière. Pour l'instant, petit pullback et manque de force malgré des volumes qui, depuis pas mal de temps ici, se sont énervés. Donc je suppose malgré tout que en termes de gestion du risque, on est plutôt pas si mal foutu. Et on avait le POC qui prend l'intégralité de la vie de FDJ qui était justement autour de 23 €. Donc en soi, le risque récompense là, quand on en arrive à ce genre d'extrémité, est pas si dégueu. À prendre toujours en considération que, comme on l'a vu aussi avec des dossiers comme Novo Nordisk, c'est très compliqué parfois d'acheter justement le point bas parfait ou le bottom tout en ayant des sociétés qui derrière se font pas mal laminer, en tout cas toujours pour du court terme. Solana qui continue de se raccrocher aux branches du côté des altcoins, des $80, c'est très difficile, mais pour l'instant ça tient. On a également eu pas mal de ventes du côté de AAV, mais qui essaie de se maintenir la tête hors de l'eau des 110-115 $. Donc en soi, vu les dramas du moment, eh bien c'est pas si mal, j'ai envie de dire. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y en a un qui en a profité totalement et pleinement, c'est Morpho. Alors on manque un petit peu d'historique ici sur Morpho USDT sur Binance, mais depuis le point bas il y a un mois autour de 96 centimes, on est venu chercher 1,83, donc quasi 1x2 pour Morpho, la borne haute de son range se trouvant à 2,23 $, donc certainement un des actifs à surveiller pour la suite. Et on clôturera avec le JPY 30 ans, donc le taux des bonds de la Bank of Japan qui rebondit en séance de 3% et de 2% pour le 20 ans, donc ça n'est pas rien, et toujours ce questionnement vis-à-vis du Japon de ce que pourrait impliquer plus tard le fait de ne plus avoir la possibilité d'avoir cet argent gratuit qu'on a eu pendant des années, voire des décennies avec le fameux Yen Carry Trade, et un argent aujourd'hui qui est beaucoup plus difficile à avoir de par le fait que premièrement, on a cette étape qui est un peu une étape là aussi très cyclique, mais c'est un cycle qui prend beaucoup plus de temps que le reste des marchés du côté des métaux précieux. Et également, on a ce cycle de liquidité qui aujourd'hui est très différent, et l'argent qui ne va pas forcément dans les mêmes domaines qu'on avait vu et connu par le passé, notamment avec en cause cette fameuse IA et ce gros sujet justement qui restera un sujet épineux pour les prochaines années, de est-ce que l'IA va totalement ou quasi remplacer 70-80% des boulots de l'humanité, ou est-ce qu'on est parti un petit peu trop vite, trop fort, à un moment on va se faire peur, on va revenir en arrière et au final ça ne sera plus tard qu'une super aide mais qui sera cantonnée à des trucs bien spécifiques. Aujourd'hui, quand on voit tous les matins les nouveautés qui paraissent, notamment du côté de Cloud avec Anthropic, etc., c'est complètement fou de se dire qu'on ne va pas aller trop loin et qu'on va réussir à s'arrêter juste à temps. Mais voilà, en tout cas, il y a pas mal de questionnements sur ce que sera le monde de demain. Et c'est pour ça que je ne peux que vous inviter déjà à consulter la dernière vidéo que j'ai faite par rapport à mon portefeuille qui reste assez personnel sur le DCA, l'allocation, la répartition, etc., mais qui peut aussi quelque part un petit peu vous ouvrir l'esprit. Et c'est dans cette optique de monde incertain et de révolution technologique que nous traversons actuellement qu'il faut au mieux se préparer à ce que pourrait être le monde de demain, et ça passe par bon nombre de diversifications, à la fois géographiques, à la fois sectorielles, à la fois d'avoir un petit peu de bitcoin, un petit peu d'or et finalement un petit peu de tout. Je pense aujourd'hui même qu'une personne qui achète un petit terrain ou qui essaie de se construire comme ça une petite maison en campagne ou de retaper une toute petite maison, et je sais qu'il y en a de plus en plus qui cherchent justement cette petite autonomie, et eh bien ça peut un jour ou l'autre servir sans rentrer dans des délires voilà de bunker ou de je ne sais quoi. On sait jamais de quoi demain sera fait, et c'est vrai que ce fameux Covid en 2020 nous a montré à quel point le monde pouvait d'un seul coup s'arrêter, d'un seul coup changer les règles du jeu, Et c'est pour ça qu'en termes de placements boursiers et de placements patrimoniaux, aujourd'hui, il faut ratisser large pour avoir toujours un peu une branche à laquelle se rattacher en cas justement de défaillance d'une ou de plusieurs branches au sein d'un portefeuille. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve que ce week-end pour le débrief de la semaine. Continuez d'être prudent, d'ouvrir l'œil et aussi de prendre en considération qu'il est vrai, du côté de Bitcoin, on est déjà sur un discount de moins 50% et plus. Et si ça se passe au mieux, eh bien on pourrait plus tard voir le prix de Bitcoin s'arrêter quelque part entre 50 et 60 000 dollars. Et ça serait le bear market le moins traumatisant qu'on ait connu et peut-être qui permettrait dans les prochaines années de relancer la machine un peu plus férocement et notamment peut-être à partir du moment où l'IA arrêtera de draguer absolument tous les flux, tous les capitaux et où le monde jouera un petit peu moins sur la défensive comme on le voit du côté des métaux précieux aujourd'hui. On a besoin d'un monde qui redevient risk on et pour l'instant la confiance des ménages, de même que tout ce qu'on a pu voir en termes de sentiment de marché quand on questionne justement les investisseurs, ne sont pas du tout encore dans ce mood dépensier et on peut l'observer jusqu'à des secteurs de niche tels que les montres de luxe, etc., qui avaient complètement pété entre 2018-2020 à 2022 où il y a eu le pic du côté des montres. Aujourd'hui, on est sur des périodes d'aplat vraiment depuis pas mal de temps. Donc je suppose que le jour où le luxe, les montres, les spiritueux et tout ce qui va bien, le recel et les altcoins par corollaire extrême pèteront d'un seul coup, eh bien on sera de nouveau dans ce marché qui veut venir chercher l'euphorie complètement dingue qu'on a connue en 2020-2021. Très bonne journée et à ce week-end. Ciao, ciao.